Oui, on a une chaîne YouTube, donc je suis missionnaire avec Gaël Pecoraro qui est là-bas. On est missionnaire auprès de Juifs pour Jésus, la branche française. Gaël est situé ici en Suisse, à côté d'ici, et moi à Paris. On est une équipe d'une demi-douzaine de missionnaires basés donc pour la branche française et suisse de Juifs pour Jésus. Et donc notre mission, notre appel, c'est de proclamer l'Évangile au peuple juif. Vaste question. Questions théologiques complexes, des sujets sociologiques, historiques, humains très très délicats. Demande beaucoup de sagesse de prêcher au peuple juif. On est d'origine juive, tous, pour les missionnaires juifs pour Jésus. Et donc on essaye de prêcher à notre peuple. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un passage de l'Écriture qui est souvent délaissé, qui est rarement étudié, et qui pourtant est très important, c'est le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Alors si vous avez une Bible ou si ça va être mis derrière, je ne sais pas, on peut regarder Romains 11, les 15 premiers versets. Et le thème d'aujourd'hui, c'est donc, quelle est l'attitude du chrétien face au peuple juif aujourd'hui, puisque on a le témoignage de l'Évangile à transmettre au peuple juif, quel est le rôle du chrétien? Quel est son appel devant Dieu vis-à-vis du peuple juif? Est-ce que le peuple juif a déjà reçu sa chance il y a 2000 ans et que maintenant on les oublie? Est-ce qu'on continue toujours à leur prêcher la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont besoin de nous? Est-ce qu'ils sont automatiquement sauvés ou pas? Est-ce qu'ils ont besoin de Jésus? Voilà des grandes questions importantes qu'il faut pouvoir répondre. Donc je lis Romains 11, verset 1, et on va aller jusqu'au verset 15, comme j'ai dit. Paul parle et dit: Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Amen. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, donc le prophète, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, donc c'est Paul qui parle de son époque, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, aux nations, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, c'est-à-dire non-juifs, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, c'est-à-dire de mon peuple, le peuple juif, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Amen. C'est un passage très fort, surtout les dernières paroles, là qu'on vient de lire. Si leur rejet a été la réconciliation du monde, c'est-à-dire que l'Évangile est parti aux nations, aux non-juifs, parce qu'ils l'ont rejeté, en partie, qu'est-ce que sera leur réintégration? Donc ça, c'est très chouette, ça veut dire qu'il y aura une réintégration, pas simplement quelques juifs au compte-gouttes qui viendront, on parle ici d'une réintégration qui va aller après Paul, puisque Paul lui-même fait partie d'un reste de juifs qui a cru. Donc il est question ici d'une réintégration, c'est-à-dire du Messie qui revient en Israël et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ça dont il est question. Qu'est-ce que sera cette réintégration? Sinon, une vie d'entre les morts. Qu'est-ce que c'est cette vie d'entre les morts? Est-ce que c'est la résurrection? Est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est quelque chose de très glorieux. Et donc, on va commenter un petit peu ce passage. Donc, Paul ici, juste pour commenter un peu ce texte qu'on a lu et le résumé, l'apôtre Paul va poser une question qui est centrale. Il va dire, il va demander, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? C'est ce qu'il dit, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Est-ce qu'il en a fini avec les Juifs? Est-ce que maintenant ça part aux nations, les Juifs, c'est terminé? Et il va répondre immédiatement, certainement pas, loin de là. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce qu'il y a un reste. Et Paul le rappelle dans ce passage. Paul lui-même fait partie de ce reste. Il est israélite, il est de la descendance d'Abraham, comme il dit, de la tribu de Benjamin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle une histoire connue du Tanakh, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, avec Élie le prophète. Élie était l'un des derniers prophètes, pas le dernier prophète, mais l'un des derniers prophètes en son temps, du temps de Jézabel et Akab, un roi très, très inique. Et il s'était plaint devant Dieu après les persécutions de Jézabel, etc., etc. Et l'histoire du Mont Carmel, comme vous connaissez peut-être. Et il dit, Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont démoli les autels, je suis resté seul et ils cherchent ma vie. Et Dieu lui répond et il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. En d'autres termes, arrête de dire que tu es le tout dernier, c'est juste que tu ne connais pas tout le monde, mais en fait, il y a des gens un peu partout en Israël qui me sont fidèles et j'ai fait en sorte qu'ils me soient fidèles par ma grâce. Et ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal, ils ne sont pas idolâtres et ils continuent à m'adorer et à me servir. Et bien Paul prend cet exemple et il dit c'est la même chose, essayons pas de juger trop rapidement, c'est la même chose pour le peuple juif aujourd'hui. C'est Paul qui dit en son temps. De même aujourd'hui, c'est ce qu'il dit, hein, c'est le texte, il existe un reste choisi par grâce, pas par les œuvres, sinon la grâce n'est plus la grâce. Et il va continuer et il va ajouter, Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, mais les élus l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Donc il est question d'une élection, d'un reste de juifs qui ont reçu par la grâce ce que Dieu voulait leur donner. Qu'est-ce que c'est ce que Dieu voulait leur donner? C'est Jésus, c'est l'évangile, exactement. Et donc il cite, comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, etc. etc. Et il cite David qui dit que leur table soit un piège et un filet, que leurs yeux soient obscurcis. Et donc Paul va continuer son argumentation dans ce texte qu'on vient de lire, qui est fondamental pour comprendre le destin du peuple juif. À l'époque de Paul, c'est-à-dire après la venue de Jésus, la résurrection, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, mais aussi à notre époque, par extension, ces choses nous sont écrites pour nous. Donc Paul continue avec une question rhétorique, il dit « Est-ce que c'est pour tomber qu'ils ont trébuché ?» Et là, il va répondre à nouveau « Loin de là, certainement pas, non ». Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas abandonnés complètement. Et il ajoute, je paraphrase, si leur faux pas a enrichi le monde, si leur déchéance a enrichi les nations, ou les païens, comme il dit dans cette traduction, alors combien plus leur rétablissement? Donc, quand le peuple juif reviendra, il y a un moment promis dans l'Écriture, ici, de Romains 11, où il y a un retour et où le peuple juif revient à la foi. Et où il y a une grâce énorme. On est toujours dans le thème de la grâce. Pourquoi on est dans le thème de la grâce ici? Parce que ce passage de Romains 11, le chapitre 11 de Romains qui est entièrement dédié à ce sujet du peuple juif, vient un petit peu en conclusion des 10 premiers chapitres de Romains qui sont une explication magistrale du salut par la foi et non par les œuvres. Par la grâce, par la foi et non par les œuvres et par la loi. Et donc il va montrer ça en exemple en parlant du peuple juif, qu'est-ce que Dieu fait? Et il montre que c'est tout par la grâce. Et donc il continue, il va parler aux non-juifs, l'apôtre Paul, il va dire « Je suis l'apôtre des païens ou des nations et j'espère provoquer la jalousie de mon peuple et en sauver quelques-uns. » Et là il aborde un thème, donc on finit l'explication du contexte. Il est en train de développer un thème étonnant à la fin de ce passage qu'on a lu, vers le 15e verset, un petit peu avant. Il parle de la jalousie, c'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de rendre, pourquoi est-ce que les non-juifs auraient besoin par leur foi en Jésus de rendre jaloux les juifs? C'est quelque chose qui est étonnant. Une méthode d'évangélisation auquel on n'avait pas encore pensé. Et il va conclure, donc, avec une parole extraordinaire, comme on l'a dit, « Si leur mise à l'écart a apporté la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon la vie d'entre les morts ?» Incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est le contexte de ce passage? J'ai parlé un petit peu de l'épître aux Romains elle-même, mais qu'est-ce que c'est déjà le contexte socio-historique de cet épître aux Romains? Alors, Paul écrit aux Romains. Il faut savoir que le monde gréco-romain de l'époque est rempli de sagesse, de philosophie, le monde grec en particulier qui a eu un écho immense, de toutes sortes de bonnes nouvelles, de recettes de vie, presque de coaching, on n'utilisera pas ce mot-là, mais des discours positifs, des sagesses à droite, à gauche, etc. C'est vraiment ça foisonne de différents types de philosophie. Le monde gréco-romain aime beaucoup philosopher Et il y a beaucoup de choses qui sont appelées évangiles dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Et Paul va dire ici, je vous présente un évangile, il n'est pas un évangile parmi d'autres, il est en train de dire, je suis en train de vous présenter l'évangile, c'est-à-dire la seule bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autres alternatives au salut de l'homme que la bonne nouvelle en Jésus-Christ. C'est ça vraiment les chapitres 1 à 8. Et il va faire, donc, comme j'ai dit, une démonstration magistrale en parlant du péché. Il va parler dans le chapitre 4 du péché originel, notamment le jugement, le chapitre 2, la grâce, la justification, la mort, la résurrection de Jésus, etc., et la paix et la réconciliation avec Dieu qui est retrouvée. Alors pourquoi est-ce qu'il va parler de toutes ces choses à l'Église de Rome? Il faut savoir que, au niveau historique, quelque chose est arrivé à l'Église de Rome, c'est que il y a beaucoup de juifs qui étaient à Rome. En fait, quand on lit Acte 2, au verset 10, juste avant le prêche de Pentecôte, de Pierre, c'est dit qu'il y avait des juifs de toutes les nations, et c'est dit qu'il y avait des juifs de Rome. Donc des juifs de Rome ont entendu l'évangile et ont très possiblement, très probablement cru au message de Pierre à cette occasion. Il y a eu 3000 juifs qui se sont fait baptiser ce jour-là. C'était un grand réveil, le début des grands réveils. Et donc, Pierre va prêcher, le Saint-Esprit va agir, il va dire « Repentez-vous », 3000 juifs vont se convertir, et certains d'entre eux, on peut le présumer, vont rentrer à Rome et donc fonder une Kaïla, c'est-à-dire une petite assemblée à Rome de croyants juifs en Jésus, qui est donc une première communauté juive messianique à l'époque. Et ensuite, il va y avoir un événement historique qui va arriver peu de temps après, c'est l'expulsion des juifs sous l'empereur Claude. L'empereur romain Claude va expulser les juifs de Rome, c'est un événement historique, et il ne fait pas la différence entre juifs messianiques et juifs non messianiques, il met tous les juifs dans le même sac. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la congrégation, l'assemblée de Rome, l'église de Rome, va perdre une grande quantité de ses membres. Il va y avoir d'un seul coup la moitié des membres, ou on ne sait pas, en tout cas une bonne partie des membres qui vont s'en aller. Vous imaginez, vous êtes dans votre église, vous perdez le pasteur, la moitié des anciens, la moitié des fidèles, etc. C'est, du jour au lendemain, ils sont obligés de partir, de sauver leurs biens et de quitter le plus vite possible la ville. Voilà ce qui s'est passé. Et donc c'est ça ce qui s'est passé, c'est que cette église de Rome a vu de ses propres yeux la souffrance du peuple juif et une espèce d'expulsion forcée de ses membres juifs et a probablement donc été traumatisée par ça. Et donc Paul utilise un petit peu tout cet arrière-plan pour dire, poser cette question dans ce passage, est-ce que Dieu aurait-il rejeté son peuple? La question se pose. Est-ce qu'il l'a rejeté lui-même de sa grâce? Déjà, il est rejeté de toute forme de bénédiction terrestre, il est expulsé d'une ville, de la ville de l'époque, de l'Empire romain, puisqu'il s'agit de Rome. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Est-ce que ceux qui vivent la persécution, est-ce que c'est une conséquence de leur péché? Une question qui s'est reposée de très très nombreuses fois depuis 2000 ans. Et là, Paul va dire encore, non, loin de là, certainement pas, Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce n'est pas terminé. Et il explique le concept d'un reste. Un reste, qu'est-ce que c'est? C'est que par la grâce, il y a une proportion, une partie du peuple qui est restée fidèle par la foi, par la grâce de Dieu qui a donné cette foi. Et il dit même qu'il y a une restauration future très glorieuse qui vient après, avec une vie d'entre les morts. Et il va commencer, donc, pour parler de ce reste, avec une preuve évidente qui est en lui-même. Il va dire « Je suis juif, moi-même ». C'est ce qu'il dit au tout premier verset. Et donc, si Dieu avait rejeté son peuple, bah, lui-même, Paul, qui est juif, serait rejeté. Donc, qu'est-ce qu'il ferait ici de prêcher l'évangile à des non-juifs? Et donc, le simple fait que Paul prêche ce message montre qu'il est lui-même une preuve vivante que ce reste existe. Donc, l'idée principale, c'est le constat historique de tout ça. Israël a été globalement infidèle, a rejeté le Messie en majeure partie, mais Dieu reste fidèle et Dieu ne peut pas mentir et va rester fidèle et promet un avenir radieux, un avenir glorieux à son peuple. Voilà, c'est ça vraiment le thème de ce passage de Romains 11. Alors oui, ils ont été infidèles à l'Alliance, oui, ils ont subi les conséquences du péché, oui, ils ont été exilés, éparpillés, ils ont été dispersés, et puis on connaît depuis 2000 ans, ça allait beaucoup plus loin, ils ont été victimes de persécutions, de pogroms, de Shoah, etc., etc. Mais la fidélité de Dieu est toujours sur eux. Et pour ça, il y a plusieurs autres passages bibliques que Romains 11 qu'on peut citer, mais il y en a un que je trouve vraiment magnifique, c'est Jérémie 31, qui est donc dans l'Ancien Testament. Et si on lit les versets 31 à 37, Dieu promet quelque chose d'étonnant. Et quand on parle à des personnes juives, c'est l'un des passages qu'on cite beaucoup, parce que ce passage est vraiment magnifique. Voici ce que dit Dieu via Jérémie. Donc c'est du temps de la captivité babylonienne. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Il parle de l'Évangile. Avec qui ? Oui, c'est étonnant. Avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Il n'a pas dit avec les Chinois, il n'a pas dit avec les Russes, il n'a pas dit avec les Suisses, les Français ou les Italiens. Il est en train de dire avec les... C'est étonnant. Avec la maison d'Israël et la maison de Juda, donc avec les Juifs. Une alliance nouvelle, verset 32, « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Éternel, avec la maison d'Israël, pardon. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi aux deux dans deux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour. » Ça, j'aime bien la suite parce qu'on le cite rarement. Regardez verset 35. « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. » Si ces lois viennent à cesser devant moi, il parle donc des lois de l'astronomie et de la physique, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël, aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. J'aime bien ce passage. C'est beau. Verset 37. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait dans tout ce passage qu'on a lu, 31-37, ou à 38? Il est en train de dire, je vais faire une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père quand je l'ai saisi hors du pays d'Égypte, etc., donc non pas comme l'alliance de Moïse, donc non pas comme l'ancienne alliance, donc une nouvelle alliance, et l'amour que j'ai, les promesses que j'ai pour l'endurance, la vie et la continuité d'Israël comme nation, c'est ce qu'il a dit, elle cessera d'être une nation, c'est ça ce qu'il dit, à cause de leur péché, ça, jamais ça n'arrivera. Les lois de l'astronomie, les lois de la physique, les lois de la nature sont moins fortes que mes promesses envers Israël. Donc, conclusion, c'est absolument certain que le peuple juif est sous la bénédiction de Dieu et qu'il y a une grâce qui sera donnée à un moment ou un autre et qu'il y a une fidélité divine qui va se manifester d'une manière ou d'une autre à un moment ou un autre. C'est ce qu'on peut dire en citant ce passage, en lisant ce passage. Un passage magnifique. Donc Dieu est en train de dire, bon, l'alliance avec Moïse, ça ne marche pas. Cette alliance ne marche pas, je vais devoir faire une nouvelle alliance. Elle est avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et surtout, il ajoute que certaines choses de l'ancienne alliance sont non négociables. C'est cet amour divin et cette promesse. Malgré le contexte de l'infidélité d'Israël, Dieu va rester fidèle. C'est ça la grâce au final. Sinon, ce ne serait pas la grâce. Il faudrait, pour avoir la fidélité de Dieu, nous-mêmes être fidèles. Qu'est-ce qui se passe quand nous est né infidèle ? Il reste fidèle, c'est ça la grâce. Et donc, on tombe sur une logique spirituelle de Paul, et il va citer Romains 3, verset 3. Leur infidélité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là. Dieu reste fidèle parce qu'il aime d'un amour inconditionnel, inébranlable, immérité son peuple. Voilà ce qu'il dit dans tout ce passage. Et ça s'applique à chacun d'entre nous de façon individuelle. Vous comprenez que, évidemment, ça parle du peuple juif, mais on peut s'approprier tous ces versets pour chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que ça parle de la nature de Dieu. Dieu est un Dieu de promesses, toute la Bible. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu de fidélité. Il ne peut pas mentir. Et donc, il prend cet exemple d'Élie qu'on a déjà vu. Malgré l'immense infidélité du temps d'Élie, le prophète, si vous lisez ces passages, c'est dans 1 Roi chapitre 18, chapitre 19, etc. Israël avait commencé à se vautrer dans une iniquité et un péché horrible, terrible, d'idolâtrie, de sacrifice d'enfants, de paganisme complet. Et pourtant, malgré tout, Dieu dit au prophète Élie, qui se plaignait d'être le tout dernier, le dernier des derniers du plus petit reste qu'il pouvait imaginer, Dieu dit, non, il y a 7000 hommes que je me suis réservés qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et donc, c'est ça, l'élection de la grâce, non pas par les mérites, mais par la grâce simplement de Dieu. Et donc, Paul, en écrivant ces versets, doit très certainement penser à lui-même, qui est juif. Il pense à Pierre, l'apôtre, qui est juif. Il pense à Jean, il pense à Jacques, il pense aux apôtres, aux 12, aux 120, à ceux de la chambre haute, aux 500 témoins de la résurrection, aux 3000 convertis de Acte 2, et à ceux d'après qu'on voit dans la suite au début des Actes, qui sont des juifs. L'Église primitive, le socle de l'Église, est juive à la base. Et donc, c'est dit dans le livre des Actes que le Seigneur ajoutait chaque jour des âmes à l'Église. Voilà, donc c'est une preuve continue que Dieu n'a pas rejeté Israël. Et donc, il est en train de dire, le salut en Israël n'est pas venu de la culture, il n'est pas venu de la connaissance, il n'est pas venu du zèle, il n'est pas venu de l'éducation ou des études poussées dans les yeshivot ou dans les écoles où on apprenait la loi. Il est venu par la grâce. Comment est-ce qu'il est venu par la grâce? C'est-à-dire de manière imméritée. C'est une œuvre de grâce et non pas une œuvre de performance. Et c'est ça vraiment, quand on comprend Romains 11, avec en exemple le peuple juif, on comprend tous les 10 premiers chapitres de Romains. Parce que tous les 10 premiers chapitres de Romains, c'est exactement ça. Le salut par la foi, et la foi seule, qui est une grâce. Tout est immérité, ce n'est pas nos propres œuvres, c'est Dieu qui nous sauve par la grâce. Et donc, la vie de Paul va refléter cette compréhension qu'il a, et qu'il partage avec nous, et qu'il partageait aux Romains dans ce chapitre 11 de Romains. Et il va avoir un amour complètement inconditionnel du peuple juif. Et il va dire des choses, personnellement, que je trouve choquantes. Et je pense que vous trouverez choquantes aussi, vous les connaissez probablement. Romains 9, donc deux chapitres avant, les 5 premiers versets, voici ce qu'il dit. « Je dis la vérité », donc il prépare le terrain déjà avant de faire sa déclaration. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » C'est-à-dire, c'est vrai de chez vrai ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de faire semblant. Okay. Verset 2. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. C'est-à-dire, il est en train de dire, j'aimerais ne même pas être sauvé pour mes frères, si ça pouvait les sauver. Incroyable. Pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Donc, Paul comprend cette élection de grâce, comprend l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple, comprend le principe du reste, mais comprend aussi cet avenir glorieux qui est promis à Israël dans ce passage de Romains 11, et en particulier les derniers, on va y venir, le verset 15 qu'on va commenter, qu'il y a un avenir, un moment de grand retour, de réconciliation et de vie d'entre les morts. Et il en dérive pour lui-même un amour inconditionnel incroyable pour son peuple, qui va expliquer donc deux chapitres avant dans Romains 9, où il est prêt même à perdre son salut si seulement ça pouvait l'amener à ceux de son peuple. Incroyable. Et donc, Paul, il faut connaître son arrière-plan. Son arrière-plan, c'est qu'il a une formation de rabbin. Il a étudié parmi les plus grands rabbanim de son temps. Il l'explique dans plusieurs de ses lettres. Et c'est quelqu'un qui a avancé beaucoup et très vite, qui était promis un avenir radieux dans le judaïsme, d'une certaine façon. Et pourtant, malgré tout ça, il comprend qu'il n'a pas réussi à transformer et à sauver son peuple. Il regarde ça, il n'a pas amené un réveil qui a changé son peuple. Au niveau national, il a réussi à sauver un reste lui-même, à être utilisé par le Seigneur pour sauver un reste, pour toucher quelques âmes juives. Et ce n'est pas par manque de connaissances, ce n'est pas par manque de zèle, puisque quand on lit Romains 9, le début, s'il y en a un qui est zélé, c'est bien lui. Mais c'est parce qu'on est dans une alliance de grâce et que tout dépend de la grâce. Et donc Dieu va continuer et terminer ce chapitre en parlant des choses folles pour confondre les sages de ce monde. Et il va parler de la sagesse de Dieu. Au verset 11, il va parler de ce faux pas. Et dans ce chapitre 11, au verset 11, il va parler de ce faux pas donc, et il va poser cette question. Est-ce qu'ils ont trébuché pour tomber ? Loin de là, certainement pas. Mais par leur faux pas, donc ils ont trébuché, le salut est venu aux nations. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Pourquoi ? C'est une drôle de logique. C'est étonnant. Vous savez pourquoi ? Quel était le rôle divin, quel était le plan de Dieu pour Israël? Pourquoi Dieu a fait Israël? Qui sait? Tout à fait. C'était Israël a été choisi pour bénir le monde avec la révélation divine du seul vrai Dieu. C'est comme ça qu'il vient se présenter et qu'il parle à Abraham. Genèse 12, on va commencer avec le verset 2, versets 2 et 3. Je ferai de toi, il parle à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était le plan de Dieu, ça tombe bien. Donc Dieu avait déjà prévu d'avance tout ce qui se passerait. C'est Dieu. Le rejet du Messie de leur part a impliqué la bénédiction des nations, de toutes les nations, du monde entier. Donc vous imaginez un peu la bénédiction qui est venue sur toute la terre simplement par leur rejet. Et donc, Paul maintenant va développer une logique d'argumentation pour montrer, imaginez maintenant s'ils reviennent et s'ils sont restaurés dans leur relation avec Dieu, à quel point ça va être une bénédiction. Si leur rejet amène une telle bénédiction, qu'est-ce qui va se passer quand ils reviennent à Dieu? Et donc, on est sur un plan qui est, on va dire, un petit peu paradoxal, mais en fait qui est logique du point de vue de Dieu et de ses promesses. Ce n'est pas parce qu'Israël est meilleur qu'il a reçu cet appel. Ce n'est pas parce qu'il est plus sage, ce n'est pas parce qu'il est plus juste. Au contraire, la Bible montre très clairement que de toutes les nations, c'était peut-être l'un des peuples les plus petits et les moins prometteurs, on peut dire, pour ce genre de tâche, d'être lumière aux nations. Mais il décide justement, Dieu, de confondre la sagesse du monde par la folie de l'Évangile et par la grâce, pour montrer sa gloire, pour montrer qu'il est Dieu. Et donc les Juifs sont choisis, non pas parce qu'ils étaient les meilleurs, mais plutôt le contraire. Et donc il y a une petite blague qu'on raconte dans les cercles messianiques qui est le suivant. Dieu vient voir plusieurs peuples et leur dit « Est-ce que vous voulez faire alliance avec moi et être le peuple élu ?» Et donc il vient d'abord voir les Assyriens, qui ont un empire incroyable, une architecture incroyable, qui sont un grand empire puissant, une armée extraordinaire, des ingénieurs, des qui ont fait l'irrigation, l'agriculture, des grands guerriers très cruels. Et donc Dieu vient les voir et il leur dit « Est-ce que vous voulez être mon peuple ?» Alors les Assyriens viennent voir le Seigneur et disent « Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre loi, Seigneur ?» Dieu dit « Tu ne tueras point. » Les Assyriens disent « Trop difficile, on ne va pas y arriver. » « Non, on ne peut pas, désolé. » Alors ils se tournent vers les Gaulois, c'est à côté de chez nous. Et un peuple qui aime la littérature, qui aime la bonne chair, qui est passionné, qui aime l'amour, le bon vin. Et donc Dieu vient voir les Gaulois et il leur dit « Voulez-vous être mon peuple? Vous serez le peuple élu, vous serez lumière aux nations, ça vous dit ?» Alors les Gaulois répondent, ils se concertent entre eux, ils viennent voir Dieu, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre loi, Seigneur ?» Dieu dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. » Ah non, ça ne va pas être possible, on ne va pas y arriver. Les Gaulois disent, c'est au-dessus de nos forces, on ne va pas y arriver, Seigneur, merci, mais non. Alors il vient voir le peuple juif. Et là, il tombe sur Moïse, bien sûr, qui d'autre? Est-ce que vous voulez devenir mon peuple? Est-ce que vous voulez garder ma loi? Et là, Moïse ne demande même pas qu'est-ce qu'il y a dans votre loi, Seigneur. Il demande combien ça coûte. Et là, Dieu dit, mais c'est la grâce, c'est gratuit. Et là, Moïse répond, ah ben dans ce cas-là, on va en prendre deux. Eh oui, c'est de l'humour évidemment, mais vous comprenez, les deux, c'est les deux alliances. Il y avait deux alliances qui étaient promises au peuple juif. Souvent, on dit, ah, vous savez, le Nouveau Testament, c'est un truc pour les non-juifs. Pas du tout, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est dans un truc judéo-juif complètement. On pense que l'alliance mosaïque, le judaïsme, ça oui, ça, ok, on est d'accord, c'est juif. Le Nouveau Testament, non. Non, c'est faux. Les deux sont juifs. On a lu Jérémie 31, on a lu Romains 11. Et on perd une grande sagesse, une grande richesse du message de l'Évangile quand on oublie ça, on oublie nos racines juives. Et donc c'est bien ce qui avait été dit dans le Deutéronome 7, verset 7. « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » C'est ça ce qu'on disait. Pourquoi? Vous avez compris, parce que c'est la grâce. Dieu veut faire éclater sa gloire. On vient toujours sur ce sujet. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être lumière aux nations? C'est ce qu'il dit dans Exode 19, verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire de prêtres. » Un royaume de prêtres. C'est-à-dire tout le monde est prêtre. C'est bizarre. On avait parlé des Lévis, ok, les Lévis sont prêtres, les Kohanim sont prêtres, très bien. Mais pourquoi tout le peuple serait prêtre? Pas parce que tout le peuple est un véhicule, un canal, un médiateur de la révélation divine au reste du monde. Voilà ce que ça veut dire. Ésaïe 49, versets 5 à 6, nous montre ça, en parlant surtout du Messie, qui devait paraître du peuple juif. « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc c'est magnifique. Non seulement il va venir le Messie du peuple d'Israël et pour sauver Jacob, mais pour être lumière aux nations. Et ça, c'est une grande bénédiction. Alors, je ne sais pas si la Suisse est une extrémité de la terre, on n'est pas si loin d'Israël, mais on est quand même à quelques milliers de kilomètres. Et l'évangile est venu jusque-là. Et puis, il va conclure, Paul, en parlant de cette jalousie, qui est quelque chose d'assez étonnant. Il va dire, donc, les Israélites ont-ils trébuché pour tomber ? Certainement pas, loin de là, par leur faute, par leur chute, le salut est parvenu aux non-juifs pour exciter leur jalousie. Pourquoi aux jalousies ? Pourquoi une jalousie ? C'est ça qui est étonnant. Vous savez, si vous avez des petits-enfants, moi j'ai 3 enfants à la maison, et s'il y en a un qui a un jouet et que l'autre veut le jouet de celui qui a le jouet, vous n'aurez pas la paix. Vous ne pourrez pas lire, vous ne pourrez pas discuter, il faut régler le problème tout de suite. C'est très fort la jalousie en fait. Et Paul est en train de dire, vous les chrétiens d'origine non-juive, vous avez quelque chose que les juifs n'ont pas encore, qui est très précieux et qui peut les rendre envieux. C'est jalousie dans le sens envieux. Et donc, cette histoire dans les cercles juifs messianiques qui circule d'un chrétien non-juif qui est toujours joyeux, qui chante des louanges sur son lieu de travail, qui prie, qui est dans la joie du Seigneur, etc. Et puis, il a un collègue juif qui est avec lui, qui ne connaît pas le Messie. Et puis, un jour, ce collègue juif vient voir ce chrétien et lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu es tout le temps joyeux ? C'est quoi, en fait ? Qu'est-ce que c'est ton secret ?» Il dit « Mais c'est parce qu'en fait, ton Messie vit dans mon cœur. » Et là, le juif est là, mais qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur ? C'est de l'adultère, ça. Je suis jaloux. Et donc, c'est ça, on parle d'une sainte jalousie ou d'être saintement envieux, d'une certaine façon. Et c'est ça ce dont Paul est en train de parler ici. Et il dit donc les versets 13-14, « Je suis fier de mon ministère parmi les païens, ou les non-juifs, afin de provoquer la jalousie de mon peuple. » Est-ce que vous connaissez une statistique incroyable ? Qui est le nombre, c'est une statistique internationale, sur le pourcentage des juifs messianiques qui sont venus à la foi. On leur a demandé, en fait, on a demandé aux juifs messianiques, comment est-ce que vous êtes venus à la foi en Yeshua ? 92% d'entre eux disent, c'est via un ami chrétien, non juif. 92%. Ça marche bien, le coup de la jalousie. J'aurais bien aimé qu'ils disent 92% juifs pour Jésus, non ? C'est le plan de Dieu, c'est 92%. Via des amis chrétiens, simplement, sur le lieu de travail. Tantôt un qui a dit « Ton Messie vit dans mon cœur », un autre qui l'a amené à l'église, un autre qui lui a donné un petit tract, un autre qui lui a lu un passage de la Bible, un autre simplement qui a prié fidèlement. Et c'est comme ça que l'évangile se répand. Et donc le raisonnement de Paul est le suivant, « Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration ?» Imaginez un petit peu tous les dons que le Seigneur a mis dans le peuple juif, et qui seront mis à bonne utilisation, à bon service, le jour où ils viendront et ils se convertiront à Jésus. Vous imaginez tous les Einstein, tous les Spielberg, tous ces gens-là qui, au lieu de faire des films et de faire des choses terrestres au final, seront dans les études bibliques et dans la prière. J'ai hâte de voir ça. Pourquoi ça nous concerne ? Parce qu'il dit au verset 29, dans Romains 11, « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » C'est-à-dire que Dieu avait mis des dons et a mis des dons dans ce peuple pour être lumière aux nations. Et il y a quelque part là, au niveau spirituel, quelque chose qui est comme de la dynamite au niveau spirituel et qui attend la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu viendra, ça sera vraiment glorieux et ça sera, c'est ce qu'il dit, une vie d'entre les morts, d'après ce qui est dit, selon les mots du texte. Et donc Dieu ne se repent pas de ce qu'il a donné. Il ne retire pas cette vocation d'Israël à être lumière aux nations. Il attend simplement qu'il l'accomplisse. Et on est dans une parenthèse de l'histoire humaine depuis 2000 ans où on attend l'accomplissement et un destin renouvelé du peuple d'Israël pas au niveau terrestre simplement, au niveau spirituel, en tant que nation, où ils vont recevoir pleinement, le peuple juif recevra pleinement le Messie qui est Jésus. Et donc, Paul dit ça, ce sera une résurrection d'entre les morts. Romains 11, verset 15. Quand Israël entre dans son appel, c'est une résurrection, une vie et un réveil mondial. C'est ça ce que ça veut dire. On dira c'est un plan qui est un petit peu à l'envers, c'est compliqué tout ça quand même. Il faut qu'il chute pour qu'ensuite ça passe aux non-juifs, qu'ensuite ça revienne par jalousie. C'est ça le plan. Le plan est, il est le suivant. 1. Israël devait être la lumière aux nations. Il ne l'a pas été. 2. Ils n'ont pas accepté le Messie. 3. Une petite minorité, donc un reste, l'a accepté. Paul, les apôtres, machin, etc. 4. Cette minorité n'a pas pu toucher la majorité juive et faire le réveil qu'ils escomptaient, qu'ils voulaient faire du temps de l'Antiquité. 5. Cette minorité est allée aux nations. Là, en l'occurrence, Paul va dire aux Romains qu'il va aller jusqu'en Espagne. 6. Parmi les nations, il y a encore une minorité qui a cru. Ce n'est pas toute la Suisse. Il y a eu beaucoup de Suisses. Pas tous les Suisses, pas tous les Français. Ce n'est pas tous les Chinois. Mais à chaque fois, ce principe du reste. 7. Cette minorité doit rendre Israël jaloux en lui témoignant et en faisant partie de ces 92% qu'on aime bien qui amènent les Juifs au salut. 8. Israël reviendra grâce à cette jalousie. 9. Ce sera la vie d'entre les morts, c'est-à-dire qu'on attend à un moment ou à un autre un grand, grand réveil au niveau national. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On n'y est pas encore. Et donc on pourra dire c'est à l'envers tout ça. Mais non, c'est nous qui sommes à l'envers. C'est vous et moi, on est à l'envers. Dieu est à l'endroit. C'est la sagesse de Dieu. Regardez comment le royaume de Dieu fonctionne. Il fonctionne différemment de nous. Pour entrer, il faut devenir comme un enfant. Pour obtenir la vie, il faut la perdre. Les derniers seront les premiers. Il faut naître de nouveau d'en haut. Ça, c'est des concepts paradoxaux, on va dire. Et donc voilà. Paul finit comme ça et il termine, donc Romains 11, à la toute fin de ce chapitre, on n'a pas encore lu ces versets, les versets 33 à 36, en expliquant cette grandeur de la sagesse de Dieu, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. » Amen.